VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 14h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par les relations États-Unis-République démocratique du Congo. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, en visite à Washington, aura des consultations ce vendredi avec John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Mais aucun entretien n'est prévu avec le président américain Donald Trump. Le chef de l'État congolais a demandé jeudi l'aide des États-Unis pour sortir son pays de la crise qu'il traverse depuis des décennies. Pour lui, les États-Unis sont le partenaire idéal pour contribuer aux réformes de l'armée et de l'administration RDC afin de pouvoir ensuite attirer les investisseurs dans le pays. Évoquant les potentialités de la RDC, Félix Tshisekedi a aussi invité les acteurs économiques américains à s'intéresser aux minerais stratégiques congolais. La veille, mercredi, le président Tshisekedi avait été reçu par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a apporté son soutien au programme du chef de l'État congolais pour le changement. Afrique, maintenant, le Rwanda marque dimanche le 25e anniversaire du génocide de 1994 et ses 800 000 morts, essentiellement parmi les Tutsis. Accompagné des dignitaires invités, surtout africains, le chef de l'État rwandais Paul Kagame allumera dans la matinée une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali. Puis dans l'après-midi, il prononcera un discours lors d'une cérémonie au stade Amahoro, le stade de la paix dans la capitale rwandaise. Cette journée ouvrira une semaine d'activités en liaison avec la mémoire du génocide, un programme d'échange et de réflexion sur des thématiques diverses, avec notamment un deuil officiel de 100 jours. Invité très officiellement par Paul Kagame, le président français Emmanuel Macron sera le grand absent de cette cérémonie de commémoration. Il a décliné l'invitation en invoquant des problèmes d'agenda. Mais, soucieux des symboles, Emmanuel Macron y dépêchera le député Hervé Verville, orphelin Tutsi rwandais, adopté par une famille française en 1994. Le président Macron a annoncé ce vendredi un renforcement des moyens judiciaires et policiers pour accélérer d'éventuelles poursuites à l'encontre de personnes soupçonnées d'avoir pris part au génocide des Tutsis au Rwanda qui se trouveraient en France. Il a aussi ouvert aux historiens toutes les archives françaises concernant le génocide rwandais. Au Mali, les jeunes des localités de Bandiagara, Bankas et Koro dans le centre du pays ont manifesté jeudi. Ils étaient, selon les organisateurs, des centaines à défiler dans les rues pour demander la sécurité pour les populations et leurs biens en pays Dogon. Cette manifestation fait suite au massacre d'Ogossagou et aux récentes attaques dans plusieurs localités. Le compte rendu de Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Rappeler à l'État sa responsabilité exclusive par rapport à la sécurisation du pays Dogon, non à l'insécurité, oui à la protection de tous, telles sont entre autres raisons de ces marches selon Adama Djonko, porte-parole du collectif des associations du pays Dogon. À Bandiagara, il y a eu 1000 personnes avec une ville morte. Des commerces, l'administration, tout était fermé. Koro a enregistré la participation de 200 jeunes, la ville était totalement paralysée. À Bankas, toutes les communes était représentée et la ville était aux arrêts, ajoute Adama Djonko. Ce 4 avril 2019, les jeunes du pays Dogon sont sortis massivement et de façon synchronisée afin de crier haut et fort leur ras-le-bol contre l'insécurité, les violences, les amalgames ainsi que les stigmatisations qui sont devenues depuis 2012 leur quotidien. Avant ces marches, l'intervention des hélicoptères d'attaque des forces armées et de sécurité après le coucher du soleil a permis de mettre un terme à une attaque lancée par les hommes armés non identifiés contre les villages de Tegrou, Ogossagou, Kobadje, tous dans le pays Dogon, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan Duncan et d'autres cadres ont été exclus temporairement du PDCI, ancien allié de la formation au pouvoir qui est maintenant passé dans l'opposition. Les détails avec Abdourahmane Dia.
La mesure de suspension des 6 cadres du PDCI a été annoncée par Jean-Chrysostome Blessy, rapporteur général du Conseil de discipline qui s'est tenu hier à Abidjan. Il a néanmoins précisé que le Conseil de discipline n'a pas compétence pour prononcer une exclusion définitive. Seul le Congrès du PDCI-RDA peut le faire. Kablan Duncan est officiellement membre du PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédié, mais il est surtout très proche du président ivoirien Alassane Ouattara, qui l'a nommé vice-président à la création de ce poste en 2017. Il avait été son premier ministre de 2012 à 2017. Patrick Hachi, un des cadres suspendus, est aussi un proche du président Ouattara. Il occupe actuellement le poste de secrétaire général de la présidence. Anciens alliés, M. Ouattara et M. Bédié sont à couteau tiré depuis que ce dernier a claqué la porte de l'ancienne coalition présidentielle, refusant de fondre le PDCI dans le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui s'est transformé en parti politique en janvier. Les cadres du PDCI qui sont restés au gouvernement ou qui soutiennent le président Ouattara ont créé une branche au sein du PDCI baptisée PDCI Renaissance.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bénin maintenant, le processus électoral dans le pays se poursuit sans l'opposition. Hier, le tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin unique a été effectué au siège de la CENA, la Commission électorale nationale autonome. L'opposition proteste avec énergie et les organisations de la société civile fustigent la mise à l'écart des opposants. Mais ces organisations exhortent les populations à ne pas céder à la violence. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dondé.
L'opposition béninoise écartée des législatives, les voix s'élèvent dans le pays pour dénoncer cette première qui, selon les dires de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, reste une violation flagrante des droits de l'homme.
Je répète qu'il n'y aura pas d'élection crédible et pacifique au Bénin que si tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement. Toute autre option serait la négation pure et simple de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité. C'est une pure folie.
L'Assemblée nationale a disposé de plus de 26 jours pour trouver une porte de sortie. Mais malheureusement, les débats n'ont pas prospéré. Pour Rosine Viera Soglo, la doyenne d'âge du Parlement, il n'y a de paix que si tous les citoyens d'un même pays sont traités équitablement. Les Béninois espéraient de la rencontre du chef de l'État avec les présidents des institutions de la République, un report des élections, mais ces derniers ont demandé la poursuite du processus électoral dans la rue. Les avis sont divergents.
Le 6 mars passé, le président a vu que la situation est préoccupante et il a dit de trouver un consensus. Maintenant, ils ont fait 26 jours de gâchis à l'Assemblée sans trouver aucun consensus.
Nous avons cru que les présidents des institutions, ils allaient venir à la rescousse. Mais malheureusement, pour le peuple béninois, ils sont même venus mettre encore de l'huile sur le feu. On est en train de constater malheureusement que le processus électoral est en train de dérailler.
Les élections n'auront pas lieu sans les opposants. Il faut marquer ça quelque part. Le peuple ne va pas permettre la nomination des députés.
L'opposition mercredi a appelé à des marches répétées jusqu'au 28 avril. Le premier jour de ces marches répétées n'aura pas connu le succès voulu, si ce n'est dans quelques villes du Bénin. Par le porte-parole, l'opposition estime avoir été écartée pour des partis politiques n'ayant aucune expérience.
Il ne saurait avoir d'élections législatives sans l'opposition, car il est difficile de prendre tous les Béninois pour des incultes en leur faisant croire que c'est seulement les deux partis politiques privés du président de la République qui n'ont pas 3 mois de vie, qui sont capables de prendre part aux consultations électorales, tandis que les partis d'opposition qui ont régulièrement pris part aux joutes électorales sont exclus de la compétition.
Deux partis figurent donc sur le bulletin unique présenté à la presse jeudi, l'Union progressiste et le Bloc républicain, tous deux de la mouvance présidentielle. De Cotonou, Ginette Fleur Adandi pour VOA Afrique.
Violence en Libye pour terminer. Les forces alliées au GNA, le gouvernement d'Union nationale à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, ont repoussé ce vendredi les combattants fidèles au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, engagé dans une offensive pour prendre la capitale. Des affrontements susceptibles de replonger le pays dans un nouveau conflit. Face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en toute urgence à 19h, temps universel, à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la Libye, après de multiples appels internationaux à la retenue, notamment de la part de Washington. L'escalada a coïncidé avec la visite en Libye du patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a rencontré le premier ministre libyen Faïz al-Sarra jeudi à Tripoli et doit ce vendredi s'entretenir avec son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.